Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, j'ai comme Guédiguian, Robert Guédiguian, le monde tel qu'il est et devrait être, avec Robert Guédiguian lui-même et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, disait Antonio Gramsci en s'appropriant une formule de Romain Rolland. Si jusqu'à présent chaque génération avait à cœur de refaire le monde, disait aussi Albert Camus en recevant son prix Nobel en 1957, maintenant les générations futures devront surtout s'attacher à ce que le monde ne se défasse pas. Ces deux phrases citées par Robert Guédiguian dans un entretien avec la critique Isabelle Danel disent au mieux combien son cinéma articule et dialectise depuis près de 40 ans et en 21 films cette tension vieille comme Racine et Corneille entre le monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait être, entre désespérance et nécessité de continuer à se battre collectivement pour inventer autre chose. Tendu tout autant entre raison et émotion, interpellation du spectateur et appel à sa conscience, cette œuvre née à contre-temps et qui aujourd'hui est plus que jamais à l'heure juste, cela fait donc 4 décennies qu'elle nous accompagne, nous aide à vivre et à appréhender le monde depuis ce point de vue, ce lieu du possible, pour reprendre l'expression du grand exégète de Robert Guédiguian, Christophe Kantchev, qu'est l'Estac, son port d'attache dont il a fait un des points nodaux du cinéma contemporain. Revoir de dernier été à Gloria Mundi toute son œuvre, c'est aussi l'expérience unique, poétique et bouleversante de voir vieillir à l'écran des figures et des corps, celles et ceux moins d'une famille que d'une troupe, d'une tribu qu'il s'est constituée dès le départ et que ni lui ni nous n'avons jamais quitté. La sortie mercredi prochain d'un de ses films les plus noirs, Gloria Mundi, constat terrible et tragique d'une classe populaire atomisée où l'idéologie et le discours des dominants se sont infiltrés au tréfonds des âmes et provoque la lutte de tous contre tous, conséquence ultime de la mort des idéaux. L'édition aussi d'un coffret DVD rassemblant l'intégralité de ses films en copie restaurée nous donne l'occasion de recevoir aujourd'hui dans Plan Large Robert Guédiguian et nous nous en réjouissons. En fin d'émission, Mathieu Macheret reviendra lui sur l'œuvre du cinéaste allemand Georg Wilhelm Pabst, mais pour l'heure c'est l'été et pourtant déjà ça ne va pas.
Il y a des soirs comme ça, j'ai envie de partir. De tout quitter, même les amis. Ils se rendent pas compte. Ça fait 10 ans que tous les jours on recommence les mêmes choses. Comme si on voulait pas vieillir. Tout change et nous on continue. Maintenant il n'y a plus rien. Il est mort ce quartier, nous avec.
T'as envie, le père ?
Non, j'ai pas envie.
Et t'as qu'à mourir.
Qu'est-ce que je vais aller faire en ville ? C'est pas la mienne, cette ville.
C'est pas la sienne de ville, mais c'est la vôtre, Robert Guédiguian. Oui. Je vous voyais un peu remuer la tête comme ça en écoutant cet extrait de Dernier été, votre premier film.
Oui, en fait, c'est le quartier dans lequel il est né dont parle Gérard Mélan déjà. Et le quartier qui était constitué à ce moment-là, un petit peu comme un peu des... C'était un petit peu, il y avait 2 grandes usines qui dominaient le quartier, et les gens habitaient en dessous, un petit peu comme un château fou, comme 2 châteaux forts et des paysans qui habitaient en dessous, hein, quelque chose de féodal, quoi. C'est ça qui disparaît, il dit ce monde-là disparaît. Et c'est vrai qu'il a, lui qui est très... un petit peu suicidaire hein, dans le film, dit de toute façon, même si je vais dans la ville par contre n'est pas la mienne. Donc la ville ne m'offre aucun débouché non plus, et l'endroit où je suis né est en train de disparaître.
Mais ce qui est très frappant, c'est que ce premier film, ça aurait pu être un dernier, comme un dernier geste de cinéma, parce qu'on sent que votre objectif dans ce film que vous avez co-réalisé avec Franck Levita en 1981, oui, c'est précisément d'enregistrer quelque chose qui est en train de disparaître. Et ça m'a fait penser à ce que fait Gérard Mélan 40 ans plus tard dans Gloria Mundi, votre nouveau film. Il écrit des haïkus, et il écrit des haïkus, dit-il, pour chercher des beaux moments et les fixer pour l'éternité. C'est, oui, un peu ce que vous faites avec Dernier été.
Tout à fait. Mais quelques années plus tard, je prétendais que c'était un prélèvement archéologique, en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu, oui, c'est pour archiver des choses, pour les sauvegarder, pour effectivement faire du patrimoine, enfin, pour, voilà. Parce qu'effectivement, je crois que les modes de vie attachés à ce fonctionnement industriel des années 70, fin des années 70, a effectivement aujourd'hui tout à fait disparu. Et tout ce qui s'y est attaché, c'est-à-dire on y a aussi la vie du village autour de l'usine, la proximité du lieu du travail, etc. En fait, on est presque, j'allais dire depuis le 19e siècle, ça n'avait pas beaucoup bougé, ça. Et ça s'est effondré dans les années 80, c'est sûr.
Le village dont vous parlez, c'est l'Estaque, oui, évidemment. Pour tout un chacun, vous êtes le cinéaste de l'Estaque. Seulement, autant Gérard Mélan dans le film dit qu'il a envie de partir, vous, au moment où vous filmez, vous êtes déjà parti. C'est un retour en même temps que vous filmez. Et l'Estaque devient, comme je le disais en introduction, le point de vue. C'est de là que vous filmez, même si vous, vous n'y êtes plus.
Oui, je crois que je continue à regarder le monde, en fait, de cet endroit-là. Voilà. Enfin, je m'y efforce, en fait, en tout cas. Donc, j'essaie de, évidemment, j'y retourne physiquement régulièrement, mais intellectuellement, en tout cas, j'essaie toujours de regarder le monde de la petite fenêtre où je suis né, au troisième étage, et où je voyais effectivement le port, les maisons de l'Estaque, etc., tout ça. J'ai essayé d'être fidèle à ce point de vue-là. Et si j'y retournais, dans ces années-là, c'était aussi parce que je pensais que j'en étais parti, effectivement, mais je croyais que, pour raconter quelque chose, il fallait quand même s'en éloigner. Je continue un peu à penser ça. Je pense pas qu'on puisse faire raconter ce qu'on a sous les yeux tous les jours. Il faut partir ne serait-ce qu'une semaine, un mois, un an, enfin je sais pas. Mais pour pouvoir se remémorer en fait ce qu'on a vu et pouvoir le raconter. Il me semble que le travail de la mémoire est très proche du travail de la fiction. En fait, on reconstitue la mémoire, on reconstitue une fiction, donc très proche de la création de la mémoire.
C'est toujours la question de la distance qui, oui, se pose au cinéma. Ce premier film intervient aussi à un moment où vous avez quitté le Parti communiste depuis quelques années. Vous y aviez milité pendant 10 ans. En quoi ce premier geste de cinéma et le cinéma qui va suivre ensuite est une continuation du militantisme, mais d'une autre manière?
Ben, en tout cas déjà d'une manière tout à fait, j'allais dire amicale et conviviale. C'était... Je dis ça aujourd'hui, je ne le pensais pas en le faisant peut-être, mais ça nous donnait à tous, puisque dans ce film, il y a tous mes camarades communistes en rupture de bain. Hein, je veux dire, bon voilà, quoi, tous les acteurs du film, beaucoup de techniciennes du film, étaient dans la même position que moi par rapport à ce parti-là dans les années 77-78, et nous partions tous du Parti communiste. Voilà, ça nous permettait déjà de nous retrouver. Ce qui en soi est une vraie... vraie chose, enfin, importante pour moi. Je crois pas que les amitiés durent si elles n'ont pas quelque chose à faire ensemble. Mmh. Voilà. Il suffit pas de se réunir un dimanche tous les 3 mois et de dîner ensemble. Quoi. Je veux dire, je crois que l'amitié qui dure, c'est une amitié où tous les jours, on confronte nos vies à l'histoire. Donc, il faut une activité. Militante était, c'est évident, professionnelle parfois. Le cinéma permet ça aussi, permettait ça. Je crois que c'est une chose qui m'a fortement influencé. Donc, et poursuivre le geste politique aussi dans le fait que nous tous restions donc en conversation, on pourrait dire, donc en rapport au réel avec nos métiers respectifs, puisque tous les autres ne faisaient pas du cinéma. Maintenir une espèce de cellule comme ça vivante, fait même un souriage, je disais, on est une cellule crypto-communiste. Hein. Voilà.
Et parmi ses camarades en rupture de parti, il y a évidemment Gérard Mélan, avec qui vous aviez créé une cellule dans votre lycée en 1968. Et j'ai été très frappé en le revoyant par le premier plan, votre premier plan de film, mais le premier plan d'où émerge Gérard Mélan, c'est l'obscurité. Il émerge comme ça de l'obscurité en bleu de travail et il s'allume une cigarette avec un chalumeau. Et tout de suite, il y a une présence évidente. Enfin, c'est un mélange d'acteurs américains à la Burt Lancaster ou Robert Mitchum, mais avec une gueule d'Indien. C'est à la fois l'Américain et l'Autochtone.
Oui, non, mais Gérard a toujours eu une physique pas particulière, une physique de cinéma d'ailleurs, hein, comme on dit, voilà. Et un corps aussi, hein, il est costaud, il est solide, quoi. Donc une facilité à jouer d'ailleurs, donc des ouvriers. Et c'est vrai que c'est la naissance de Gérard comme acteur, cette sortie comme ça dessous du noir, il vient du noir à la lumière. Bon, c'est vrai que c'est un plan inaugural de son travail d'acteur, de mon travail de cinéaste. Et il y a une certaine liberté d'ailleurs là-dedans, je trouve, quand je revois le plan, parce qu'effectivement il monte, hein, à l'évidence il monte vers le ciel, quoi, voilà, il monte vers le ciel, il fume sa cigarette avec beaucoup de volupté. J'allais dire évidemment je mets les 4 saisons de Vivaldi parce que ça me plaît beaucoup. Et donc dans le cinéma va se passer quelque chose probablement qui est pas très loin effectivement de ce que nous voulions avant, à travers même le communisme ou le militantisme au communisme, c'est-à-dire quand même une rêve d'harmonie et de beauté que si nous n'avons pas trouvé dans la réalité, on va quand même essayer de le trouver au cinéma.
Baignade formellement interdite sous peine de poursuite.
Je vais te dire un secret. Quand je me suis décidé à t'embrasser, c'était la première fois que j'embrassais une fille de ma vie.
C'est vrai.
Je croyais que mon cœur allait exploser tellement j'étais intimidé. Je crois pas qu'il ait battu une autre fois aussi vite que ce jour-là. J'ai frisé la crise cardiaque. Heureusement, j'étais doué.
C'est vrai. On va se promener ?
On entend beaucoup de rire dans cet extrait de Kilosai, pourtant c'est sans doute un de vos films les plus sombres, film de 1985. Vous aviez dit dans vos entretiens avec Isabelle Danel qu'il était né de toutes vos amertumes politiques et cinématographiques, Robert Guédiguian.
Oui, en fait, c'est quelques années après que Mitterrand ait accédé au pouvoir, donc c'est vrai que après la première année, les premiers mois, on pourrait dire même un peu euphorique, hein, je veux dire, où il se passe, il y a autant de réformes, sinon plus d'ailleurs qu'en 36, hein, donc c'est quand il faut pas l'oublier. Donc à ce moment-là, avec une certaine joie, hein, fête révolutionnaire, enfin, moment de gauche, en fait, dans l'histoire de notre pays, ça régresse très très vite, quoi, je veux dire, le chevalement s'en va, etc. Bon. Et on revient dans quelque chose de plus, enfin, on revient à une adhésion du Parti Socialiste au libéralisme, et avec toutes les conséquences que ça a encore aujourd'hui, quoi, là. Puisque, grosso modo, depuis, on est dans la situation où on est aujourd'hui. Donc, évidemment, je suis à ramasser la petite cuillère, puisque j'ai participé depuis les années 72 à la création de ce programme commun, au travail qu'il fallait faire pour créer cette union. Donc, voilà. Ça va pas bien politiquement. Et cinématographiquement, ça va pas fort non plus, puisque, mais j'ai du mal à faire des films que je voudrais faire. J'ai eu une aventure au 7, enfin, j'avais fait les dernières étés où je me dis n'avait pas marché, bon. Donc ça va pas très fort. Du coup, je fais un film comme ça qui est forcément qui est de l'ordre du cri, puisqu'il se fait en quelques jours, écrit en 5 jours, tourné en 15 jours avec quelques amis, une caméra, dans le parc d'une maison qu'on me prête. Et ça donne ce film-là. Le titre même, c'est le titre qui le sait. Désigne cette espèce de point d'interrogation sur quel film on fait, pourquoi on fait des films, quelle politique, voilà, le titre lui-même est porteur de cette, de ces angoisses-là.
C'est un moment un peu de désarroi, et avec des personnages retranchés dans une maison, comme votre avant-dernier film, maintenant, La Villa. La Villa qui utilise la scène qu'on vient d'entendre comme un flashback, qui lui donne un autre sens. Mais pourquoi ça marche comme flashback? Parce que vous avez les mêmes comédiens. La troupe s'est complètement constituée à ce moment-là. C'est l'arrivée de Jean-Pierre Darroussin, que vous ne vouliez pas utiliser avant parce qu'il n'avait pas assez l'accent marseillais. Qu'est-ce que ça vous permet, au-delà de la possibilité de vous autociter et d'utiliser ces corps sans faire les effets spéciaux qu'on fait à Hollywood maintenant, le de-aging, vous les avez déjà sur pellicule, mais de travailler avec les mêmes comédiens, avec la même équipe technique aussi, depuis longtemps, qu'est-ce que ça vous permet, Robert Guédiguian?
Mais si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le dernier été, c'est vrai qu'il y a quelque chose chez moi de maintenir un groupe, un collectif, un état de marche, quelque chose qui me satisfait tout à fait de ce point de vue. Donc, en l'occurrence, c'est une troupe, comme une troupe au théâtre, je veux dire, qu'on peut réactiver. Et je crois qu'on est tous très très heureux de passer du temps ensemble, et pas une heure ou deux, de passer un mois et demi, deux mois, trois mois parfois, à se voir tous les jours, et donc même le temps hors tournage, le fait de parler de nos familles, de nos parents, de nos grands-parents, de la politique, des derniers films qu'on a vus, etc. Donc on est ensemble, c'est un peu refaire le point quoi entre nous, je veux dire de nos vies aussi, donc évidemment ça c'est quelque chose de très agréable auquel moi je tiens beaucoup, apparemment tout le monde y tient beaucoup, puisque tout le monde continue à venir, c'est un peu des universités d'été quoi, voilà, comme chaque film serait l'université d'été de la troupe. Il y a ça. Et évidemment, après, dans le travail, il y a une chose extrêmement particulière, c'est que bien sûr que dans un contexte aussi amical, aussi familial, aussi convivial, les acteurs n'ont pas la moindre hésitation à lâcher prise, en fait. Voilà. Donc, ils n'ont aucune mauvaise pensée, j'allais dire, sur mais comment l'autre acteur, que pense l'autre acteur de moi, que pense la production, que pense le chef opérateur, en fait, du point noir que j'ai sur le nez, que pense... Enfin, je dis, un film, c'est quand même une série de choses comme ça aussi. Là, il y a une espèce de telle habitude, confiance, etc., que tout le monde se sent dans une liberté totale, je crois. Je veux dire, jusqu'à se laisser aller à... Je commence à dire que je fais quand même un petit peu des documentaires sur les acteurs avec qui je travaille, quoi. À l'intérieur de la fiction qu'ils incarnent. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Je capte leur état, dans le personnage, bien sûr, puisqu'évidemment, ils font leur travail d'acteur.
Hé, là-bas, arrête-toi !
Merde. Il manquait plus que ça, un gardien. Ma maison va tomber en ruine si je ne mets pas une couche de blanc sur les murs. Elle est fermée depuis 6 mois, cette usine. Tout le monde les a oubliés, ces malheureux pots de peinture. Si je ne les prends pas, ils vont pourrir sur place. Tu pourrais me les donner?
Mais elle est barjot. Tu es barjot ou quoi? Tu crois qu'ils sont à moi? C'est pour la peinture? On me paye pour les garder. Donne-moi tes papiers.
Mes papiers?
Oui, tes papiers.
Et en plus, tu vas me dénoncer aux flics. Garde tes pots et lâche-moi. Elle est pas à toi, cette usine. Tu viens de me le dire. J'ai pas de sous pour la peinture. Je vais pas aller en tôle pour ça. Je suis pas la fille de Jean Valjean, moi. Alors je te laisse tes pots et je me barre.
Dis, arrête-toi un peu de parler et donne-moi tes papiers, je te dis. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit?
J'ai dit fasciste! Tu es nouveau dit comme moi, non? Qu'est-ce qu'il y a à foutre cette peinture? Merde! Heureusement que je suis pas arabe, sinon tu pourrais tirer dessus!
Tais-toi! Prends tes papiers, va-t'en! Hein.
Ben,
chut! Chut! Tais-toi, va-t'en et en silence! En silence!
Et la peinture?
Allez!
Vous écoutez France Culture, plan large sur Robert Guédiguian en sa présence, et vous aurez reconnu évidemment la scène fameuse du début de Marius et Jeannette, votre premier très très grand succès populaire, hein, rappelons-le, 2,7 millions de spectateurs à sa sortie en salle pour ce qui était au départ un téléfilm pour Arte. On en avait parlé dans Plan Large avec le grand Pierre Chevalier qui nous a quittés il y a 8 mois. Alors c'est toujours compliqué évidemment d'expliquer un succès, tout aussi compliqué d'expliquer un échec, mais qu'est-ce qui fait selon vous que ce film ait marqué à ce moment-là votre rencontre avec le grand public, Robert Guédiguian?
Je crois, enfin, beaucoup ont dit, c'était le 7e film, enfin, beaucoup ont dit, il y a 7 ans de répétition le film, dans ce film-là, c'est quand même donc un film très 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 préparé pour le coup, même si en réalité, bien sûr, dans la réalité on a tourné aussi pareil, 3 semaines de préparation, 4 semaines de tournage, enfin, ça s'est fait dans une légèreté et une aisance absolue. Mais c'est vrai qu'il y avait tout ça derrière. Ils avaient préparé, je pense aussi, à la vie à la mort était un succès. L'argent fait le bonheur, c'est déjà, ça avait déjà marché. À la vie à la mort était un gros succès.
C'est le début de votre d'estime. Reconnaissance critique.
Voilà, absolument. Donc il y avait eu des étapes antérieures, quoi, hein, comme si les films avaient monté des marches déjà, quoi. Et c'était, quand celui-là est arrivé, il a bénéficié de tout ça. Alors en plus, je pense quand même que, bien sûr, comme tous les... Quand les films atteignent des tels, leur succès atteint une telle ampleur, il y a toujours des raisons socio-historiques un peu, quoi. Hein, ça veut dire quelque chose à cet ordre-là. C'est-à-dire que le film a quand même représenté, réencouragé la gauche, quoi. Voilà.
Oui, on est en 1997, gauche, voilà. Il y a eu les grandes manifestations, absolument. Les grandes grèves de 1995, le retour de la gauche au pouvoir, on est dans un moment historique, effectivement.
Voilà. D'ailleurs, juste après le Festival de Cannes, Chirac dissout l'Assemblée, c'est Jospin qui devient Premier ministre.
Ça, c'est l'effet Marius et Jeannette.
C'est l'effet Marius et Jeannette, c'est grâce à moi.
Mais il y a aussi...
Ce qui n'a pas été après, ça n'a pas été un gouvernement que j'ai soutenu tant que ça. Mais...
Non, mais il y a aussi autre chose, il me semble, c'est que le film est une comédie, on l'a entendu, elle est très drôle, et on parlait tout à l'heure de ces films qui faisaient état d'un accablement, d'un désarroi. Là, vous êtes dans quelque chose de beaucoup plus volontariste. Oui. À l'époque, vous disiez, il fallait réenchanter le monde.
Absolument, c'était la phrase, comme ça, le slogan du film. Mais je pensais que qu'il fallait retravailler des formes populaires. J'avais commencé aussi un petit peu avant, mais aller encore plus loin. Pour moi, c'est un film d'agit-prop, comme on disait dans les années 20 en Allemagne. C'est-à-dire, c'est vraiment un film tout à fait.
Il y a du Brecht dans le film.
Il y a du Brecht, il y a du cabaret quasiment. Hein. Il y a des interventions comme ça, il y a des bagarres, il y a des chansons populaires. On a recours comme ça à des formes qui sont extrêmement populaires pour essayer. D'encourager, en fait, d'intervenir dans la réalité pour montrer que cette cour, la fameuse cour de Marius Jeannette, pourrait exister. Quoi. Il n'y a pas de raison que toutes les cours de France, et du monde d'ailleurs, ne soient pas, effectivement, des mini-assemblées démocratiques, et voilà, et que le monde se porte mieux pour ça. Bon, le cinéma peut aussi promettre ça, ou permettre ça. Et c'est vrai que ça a fonctionné de cette manière-là, je dois dire, dans le monde entier. S'il n'y a pas que des cours, évidemment, il y a des courées au Japon, il y a des courées en Suède, etc., etc. Et tout le monde était dans le même, le public, quoi, était dans le même désir, oui, de reparler à son voisin, de dire, mais quel souci as-tu, toi, dans la vie aujourd'hui? Refaisons des cahiers de doléances, allons dans la rue. C'était un encouragement à refaire de la politique à partir de la base, comme ça, à partir de... Et ça, c'est pour ça aussi que ça a fonctionné aussi bien.
Et ce que propose votre cinéma aussi, et on vient d'entendre Jeannette, dans Marius et Jeannette, c'est la possibilité d'avoir d'autres personnages féminins. Si on met à part Dernier été, qui est vraiment un film de ragazzi pasolinien, oui. Dès la suite, dans Kilosa, par exemple, c'est Anna qui mène le jeu. Vous avez construit toujours des personnages féminins, généralement interprétés par votre femme, Ariane Ascaride, qui ne s'en laisse pas compter, qui sont agissantes et qui ne sont aussi jamais filmées d'un point de vue dominant. Le fameux male gaze dont on parle beaucoup maintenant. Alors, dans une période où, justement, on est dans des questions sur la parité, sur la façon de représenter les femmes à l'écran, j'ai le sentiment que chez vous, c'est une réflexion très ancienne.
Oui, mais bizarrement, je dirais que c'est très lié à mon éducation, je crois. C'est-à-dire que, contrairement à une idée répandue, en milieu populaire, je pense, en tout cas, pour ma génération, les femmes avaient une importance capitale. Voilà. Elles tenaient les cordons de la bourse, elles tenaient les cordons de l'alimentation, de la santé, celles qui surveillaient l'éducation. Enfin, il y avait une espèce de... Je ne vais pas faire une étude ethnologique de la classe ouvrière dans les années 60, mais en fait, elles avaient quand même une importance tout à fait capitale. On était bien loin de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui chez les bourgeois et chez les petits bourgeois. Voilà. Donc j'ai une espèce de... Pour moi, les femmes sont toujours fortes, combattantes et même parfois plus concrètes donc que les hommes. Donc du coup moins dépressives parfois. C'est-à-dire que dans des moments de chute de la puissance du mouvement ouvrier ou du mouvement social, etc., les femmes continuent à se battre. Et c'est ça que j'ai toujours admiré. Mais j'ai admiré ça là, parce que je l'ai vu sous mes yeux. Je dirais mes personnages féminins sont inspirés par ma mère, la mère de Gérard Mélan, la mère d'Ariane, etc. Et qui étaient des femmes à qui il ne fallait pas compter trop, on ne se laissait pas faire.
Rolovat, Kill, kill.
Kill.
Horovat.
Hor.
Horovat.
Horovat. Voiture.
Ah. Mekena.
Mekena. Moi, Anna. Et vous?
Manouk.
Manouk. Coiffeur. Les cheveux.
Askata. Varsaviranus.
Varsaviranus.
Petite leçon d'arménien dans Voyage, le voyage en Arménie, votre film de 2006. Quand est-ce que vous vous êtes senti arménien, Robert Guédiguian? Parce que Guédiguian, c'est un nom
c'est
arménien.
Clair. C'est clair. Non, non, c'est un peu... en fait, j'étais sollicité par des amis pour aller faire une rétrospective à l'Arménie. Mais des amis qui avaient été, eux, toujours des militants, en fait, de la cause arménienne, etc., ce que je n'étais pas. Et j'avais été sollicité parce que ils ouvraient dans l'Arménie qui sortait de l'Union soviétique et où il n'y avait plus de cinéma. Ils s'étaient dit, ils faisaient de l'humanitaire en général, ils faisaient des trucs de toubib, médecine, pharmacie, etc. Et ils m'ont dit, bon, et si on faisait un cinéma aussi, quand, si on réouvrait un cinéma, pourquoi on ne ferait pas de la culture aussi? Ben, je dis, c'est une très bonne idée. Et ils m'ont amené, en fait, là-bas, quoi, voilà, avec 10 films à ce moment-là. C'était au moment de La vie des tranquilles, oui, c'est ça. Donc, on a fait une rétrospective de 10 films pour la réouverture du cinéma d'Erevan. Je suis allé là-bas 10 jours et j'ai été, quand même, extrêmement, j'allais dire, j'ai été surpris de voir mon père à tous les coins de rue, quoi, voilà. C'est-à-dire, c'est un choc physique. D'un coup, je me suis aperçu que mon père, mes oncles, enfin, tout ce côté-là de la famille était, avait un physique particulier. Voilà. C'est quelque chose de, je voyais leurs mains, leur barbe, leur solidité. Les Arméniens sont en général assez trapus et costauds. Et ça m'a bouleversé, d'autant plus que les gens là-bas nous connaissaient tous. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un endroit où j'étais aussi célèbre. Je marchais dans la rue, dans un pays où j'étais jamais allé, et les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire merci d'être venu, on est content que vous soyez là, nous offrez des fleurs. Enfin, c'est hallucinant. Ariane était avec moi, elle disait, mais qu'est-ce qu'ils ont? Voilà. Mais ils ont tout simplement que c'est un pays tellement petit, qui a tellement souffert, bien sûr, de cet éclatement après le génocide, qu'ils sont attentifs à tout ce que les Arméniens font dans le monde. Donc aujourd'hui, avec Internet et Parabole, etc., tout ça, ils suivent donc l'actualité. Ils étaient parfaitement au courant de mon actualité, ils savaient tout ce qui j'étais, ils nous reconnaissaient dans la rue. Donc on a eu l'impression d'être adopté quoi, dans ce pays. En s'apercevant qu'on avait été ambassadeur sans le savoir, bon, on a décidé d'être ambassadeur en le sachant. Voilà. On a dit très bien, on adhère et on vient et on va aider ce pays.
Mais ce qui est très frappant dans ce film, c'est qu'il rassemble beaucoup de questionnements aussi sur ce que vous êtes. C'est-à-dire que comme le personnage d'Anna va aller voilà, à la recherche de son père qui est retourné au pays, qui se cache quelque part, quand on lui dit « mais alors ça y est, maintenant tu es arménienne », et oui, enfin je suis arménienne, mais pas que, ce n'est qu'une des composantes de mon identité. C'est donc tout un film sur le questionnement identitaire, question très importante maintenant. Et puis c'est aussi un film qui renvoie au communisme utopique des militants occidentaux qui agitaient les drapeaux rouges sur la Canebière, et puis à ceux qui ont réellement vécu le communisme soviétique à l'époque, avec toutes les ambiguïtés, les questionnements que ça implique. Et vous êtes parti quasiment comme pour faire un documentaire quand vous faites ce film.
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, ils ne disent pas communisme là-bas, ils disent soviétisme. Ils disent jamais communisme. Ils disent le soviétisme. Voilà. Et c'est vrai que le rapport en plus qu'a même le dispositif mis en place par ce toubib marseillais, donc joué par Ariane, qui va chercher son père, fait que elle passe d'une séquence à l'autre en cherchant, à chaque fois évidemment, on essaie de tirer un fil, de raconter quelque chose, dévoiler quelque chose qu'éventuellement le public ne connaît pas sur ce qui s'est passé là, et de poser au public les questions que je me pose effectivement sur la les bonnes et les mauvaises choses de l'Union soviétique, bien entendu, et la réalité aussi de l'identité conçue comme une construction. C'est-à-dire que, on va dire que elle devient arménienne en allant là-bas, et ça vient se juxtaposer et pas s'opposer au fait qu'évidemment elle est née en France. Et que probablement, je me souviens plus, mais que sa mère n'est pas aussi d'origine immigrée. Voilà. C'était aussi. Et le film, il est lié, bien sûr, de manière très claire à ce que je disais sur ses amis qui ont réouvert le cinéma, de manière factuelle, bien sûr. Mais évidemment, dans l'écriture, il est lié au fait que j'étais de plus en plus, moins qu'on puisse dire, assez agacé par la manière dont le débat sur l'identité devenait prégnant en France, devenait même obsessionnel, devenait presque le seul débat, voilà. Donc je me suis dit qu'il serait bon que des gens un peu moins intégristes se mêlent de cette affaire-là, quoi, hein, voilà. Et à travers ce qu'ils connaissent, à travers, pourquoi pas, leur propre identité. Donc je me suis occupé d'arménité à partir de là.
Et puis il était bon de rappeler aussi ce que quelques immigrés avaient fait pour la France.
C'est bien, tu fais des progrès. Et toi ?
Quoi, moi ? Est-ce que tu peux te plier à une discipline ? Tu veux encore parler de Simon ?
J'en ai déjà discuté avec Petra, je veux pas me séparer de lui. Tant qu'il restera avec moi, ils le prendront pas.
Il paraît que tu fais de la natation ? On m'a même dit que tu te prépares pour une compétition, c'est bien vrai, ça ?
Les championnats de Seine. Et alors ?
Alors c'est pas bon que tu t'exposes en public.
Mais c'est pas moi qui nage en compétition, c'est Rougemont. Michel Rougemont.
Arrête tes conneries, Marcel.
Écoute, Missac, toi tu fais ta gymnastique tous les matins. Moi j'ai besoin de nager.
Et t'as besoin d'avoir ton pistolet toujours sur toi ?
Oui.
Même quand tu nages ?
Je le laisse dans mon sac, il est jamais loin.
Et si quelqu'un fouille dans ton sac ?
Je vais à la piscine avec Simon, ou Monique, ou Crasu. Ah ouais. Il y en a toujours un qui reste près du sac. Bon, c'est fini l'interrogatoire ?
Dans le fond... Tu veux bien faire partie de mon groupe, mais tu veux pas m'obéir.
Pas surtout. Maintenant, c'est toi le chef, c'est toi qui décides.
Oui. C'est moi qui décide.
Le groupe en question, c'est le groupe Manouchian, les FTP MOI qui avaient été... mise en portrait sur l'atroce affiche rouge, c'est l'armée du crime, votre film de 2009. On a entendu Simon Abkarian et Robinson Stévenin. La question de la lutte armée travaille votre cinéma dans plusieurs de vos films. Plus tard, vous en parlerez d'une autre façon dans Lady Jane, dans Une histoire de fou. Pourquoi ça vous intéresse, Robert Guédiguian?
Parce que c'est vrai que les moments de lutte armée, ce sont des moments, enfin, dans l'histoire où, j'allais dire, où les choses s'éclaircissent. En fait, le bien et le mal, c'est assez clair dans ces cas-là. Voilà, on n'est plus dans la nuance, on bavarde pas, on ne perd pas dans des querelles byzantines, hein, pour savoir s'il faut donner une prime aux infirmières ou les augmenter. Réellement augmenter leur salaire. Ce type de questions ne se pose pas du tout. Voilà. Et on se tire dessus parce qu'effectivement, il y a une oppression très forte et que la violence de la résistance répond à une violence de l'oppression, bien entendu. Donc, c'est des moments qui permettent un peu de, je trouve, de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de redichotomiser le monde, ce qui est parfois salutaire. Voilà. Je crois que, bien entendu, que quand tout va bien, dans des périodes de calme relatif, je veux dire, parce que le calme est toujours relatif, il est bon de financer, il est bon de conceptualiser, d'aller chercher les choses, les détails, les complexités. Mais je crois aussi que le processus, d'ailleurs scientifique, artistique, politique, c'est aussi un processus qui consiste parfois à simplifier le réel, pour pouvoir effectivement adopter une attitude efficace.
Voilà. Sauf que c'est pas si simple chez vous, parce que quand il s'agit, même dans l'armée du crime, d'abattre des Allemands dans la rue, on n'est pas chez Tarantino, on ne jouit pas de la mort du nazi. Une mort n'est jamais anodine chez vous. Il y a même, je crois que c'est Manouchian qui dit à un moment dans le film, nous on est du côté de la vie, même si on donne la mort.
Bien sûr, bien sûr. Après justement, une des questions que pose effectivement la lutte armée, c'est la... C'est évidemment la cible choisie, par exemple. C'est des dégâts collatéraux, des choses comme ça, bien sûr. Donc j'ai essayé, dans les deux films où effectivement j'ai montré de la lutte armée, j'ai essayé de montrer que la plupart, enfin, les gens sérieux dans la lutte armée se sont toujours posé des questions de morale extrêmement puissantes. Parce qu'il s'agissait effectivement de donner la mort. Et donner la mort, les attentats aveugles, etc., tout ça, sont des choses que...
Ça, c'est la question d'une histoire de fou. Justement.
Voilà, que les terroristes arméniens ont refusé. Enfin, on fait scission à ce moment-là, lorsque cette tentation a existé dans le groupe. Et c'est accompli, quelquefois. Le mouvement s'est coupé en deux. Et dans la résistance française, à ma connaissance, il n'y a pas eu de terrorisme aveugle, jamais. Il y a eu forcément des moments où il s'est passé des choses. Quand on faisait des rails à un train, il pouvait y avoir un innocent dans le train. Mais il y a toujours eu des choses extrêmement ciblées. Des attentats extrêmement ciblés. Le rêve, d'ailleurs, comme le dit un des personnages le rêve de l'un des, entre guillemets, de l'un des terroristes d'une histoire de fou, c'est dire, je ne tuerai plus que des gens à bout portant. Ce que faisait Raymond tout le temps, hein, je veux dire, en fait, tout le temps. Très, très souvent, en fait. À bout portant, et je ne risque pas de blesser quelqu'un d'autre. Voilà, je sais qui je tue. Il est en uniforme nazi. Et voilà. Et je tue des nazis à ce moment-là, je ne tue pas des Allemands. Ils disaient ça sans arrêt. J'en ai connu beaucoup pour faire le film.
Et des Allemands, ça aussi, j'imagine que vous y avez réfléchi quand vous avez fait le film, parce qu'on a parlé de votre père, mais votre mère, elle, c'est moins connue.
Oui.
Et elle, tout à fait allemande.
Oui.
Et vos parents se sont rencontrés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui. Ça faisait un peuple génocidaire. Donc on comprend que je suis un peu agité par ces questions-là. Hein. Voilà. Et je dis parfois qu'un peu d'humour, la lettre de Manouchian, quand il dit « je n'ai aucune haine contre le peuple allemand », dans sa dernière lettre, est une espèce de, pour moi, de déclaration d'amour à ma mère.
Et puis se pose aussi, avec ce film, même si on oublie que votre deuxième film, Rouge Midi, était déjà un film en costume, en tout cas un film qui embrassait l'histoire. Mmh. Quand vous faites des films qui s'approprient des événements et des personnages réels, on pense bien sûr au Mitterrand du promeneur du Champ de Mars, quand vous emparez de l'histoire, quelles questions de cinéma vous vous posez? Parce qu'on n'a jamais le sentiment d'une reconstitution avec le figurant qui passe par-ci, par-là, en costume. On a le sentiment que vous filmez l'histoire telle qu'elle est, telle qu'elle se déroulerait sous nos yeux.
Oui, je crois qu'il faut... Il faut absolument que tout ce qui appartient à la décor, à la décoration, aux costumes, aux accessoires, aux voitures, aux véhicules, etc. En fait, il faut que tout ça ne soit pas regardé avec insistance, en fait. Effectivement, pour le coup, il faut que ce soit très, très loin, quoi. Il faut que ce soit là. Parce que ça participe évidemment d'une ambiance, ça participe de l'idée même de leur constitution. Mais il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à filmer tout le beau travail de reconstitution qu'on a fait, voilà. Et en général, il est très beau. Donc on se dit, tiens, on a envie de faire un plan sur une armoire, une très belle voiture d'époque, une armoire d'époque, un geste, une machine à imprimer, par exemple. D'ailleurs, un exemple précis, dans l'armée du crime, on a carrément reconstitué la machine à imprimer en bois, parce que la machine à imprimer réelle de l'époque était en bronze et ne pouvait pas rentrer dans l'endroit où on allait tourner. Donc c'était un travail considérable. Il y a deux stagiaires des Beaux-Arts qui ont reconstitué cette machine. Et pourtant, dans le film, on la voit de loin, au fond, à travers l'embrasure d'une porte. Voilà. Je ne suis pas allé faire des détails de cette machine. Et c'est vrai que c'est presque dommage d'avoir autant travaillé pour si peu à l'image. Mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut se préoccuper, donc toujours, même quand on fait un film d'époque, il faut surtout se préoccuper de la narration, c'est-à-dire des personnages, de comment ils avancent, de leur parcours, de ce qu'ils se racontent, de ce qui se passe entre eux.
Salut.
C'est des fausses, hein. Les vraies fleurs, c'est interdit, pareil. Champagne, c'est du vrai, lui. Alors... Eh ben, elle est mignonne. Hein. Et voilà.
Doucement les oreilles.
Voilà.
Tiens, chérie, ça porte bonheur.
Merci.
Sur les poches, ça attire l'argent.
C'est vrai qu'elle est mignonne, elle est même pas fripée. Ça va, t'as pas eu trop mal?
Non, franchement, j'ai rien senti.
Mais Aurore, réveille-toi, ça fait 40 ans qu'on donne la vie sans souffrir.
On va inventer une péridurale pour toute la vie.
Bah, y a le champagne, hein, ça marche bien.
Pour conduire les bus, c'est pas terrible.
Et Gloria, ça vient d'où?
D'un film qu'on avait vu à la télé. T'aimes pas? Si.
C'est très joli.
Vous écoutez France Culture, plan large sur et avec Robert Guédiguian, et c'est le dernier film à notre programme, le dernier en date pour vous, Robert Guédiguian, Gloria Mundi, qui sort mercredi prochain. On l'a entendu, toute la tribu Guédiguian est réunie dans ce moment, les anciens et les nouveaux, puisqu'il y a toute une jeune génération d'acteurs, Lola Neymark, Grégoire Le Prince Ringuet, Anaïs de Moustier, dont certains étaient arrivés au moment de l'armée du crime. Précisément, on a une scène de famille réunie dans une salle de maternité, dans une chambre autour d'une naissance. Et j'étais très frappé par le début de ce film. On n'en dira pas trop sur ce film, parce qu'on voudrait laisser les spectateurs le découvrir mercredi prochain. Mais ça commence par une naissance, précisément. Vous filmez un accouchement d'un point de vue assez inédit, il me semble, parce que vous filmez du point de vue de la mère. Généralement, on est plutôt du point de vue du médecin ou du père.
Oui, mais il fallait, je crois, le point de vue de la mère, et le point de vue le plus beau, d'ailleurs, je crois, parce que c'est une irruption progressive, quoi. Hein. C'est chose de, bon, quelque chose qui, comme ça, sort de terre, si je puis dire. Hein. C'est comme une... Voilà, ça pousse. C'est un jeu de mots. Donc la chose apparaît comme ça et puis vient se poser sur votre ventre. C'est ce qu'on filme. Et ça évidemment, en plus, ça permet de pas filmer la médicalisation quand même qu'il y a autour de l'accouchement aujourd'hui. Hein. Bon, qui est d'ailleurs qui est tout à fait nécessaire. Hein. Je veux dire, il n'y a plus de mortalité infantile en France. Donc c'est, tout ça est très bien. Mais c'est vrai que ça enlève un peu de la poésie, tout ce qui est médical. Voilà. Là, on voit ça comme si on voit ça d'une manière... Comme si c'était, et ça l'est toujours un peu, quand même, de l'ordre de la nature, seulement de l'ordre de la nature. Quoi. Donc quoi qu'il arrive, nous parvenons à nous reproduire, et quand nous nous reproduisons, toutes les promesses sont là.
Mais vous parlez de poésie, vous parlez de nature, on pourrait même parler de sacré, parce que vous utilisez une musique religieuse à ce moment-là. Et il y a chez vous, pour quelqu'un qui est probablement totalement athée, et qui ressemble au Jacques Boudet de Marius et Jeannette, qui explique un peu la différence entre les monothéismes, oui. Grand moment de cinéma, la question, malgré tout, du sacré est toujours là. Vous avez une façon de filmer l'intérieur d'une église, je pense au voyage en Arménie. Vous avez une façon de filmer le corps de l'acteur, on parlait de Pasolini tout à l'heure, comme si c'était un corps sacré. Enfin, cette question-là, il me semble, se pose vraiment chez vous, cinématographiquement, Robert Guédiguian.
C'est vrai. Je crois que il y a dans toute image que je vois, en particulier les images des hommes et des femmes, quelque chose d'autre que leur propre réalité. Voilà. Donc, si vous voulez, je suis... quelque chose d'autre qui tout simplement appartient à l'humanité, quelque chose d'autre qui est pas, on pourrait dire, je suis un fou d'humanité, hein, comme on dit des fous de Dieu. Mais je suis pas un fou de Dieu du tout. Mais un fou d'humanité peut-être. Donc je considère que les choses se présentent à nous, évidemment, sous leur enveloppe charnelle, physique, matérielle. Mais j'ai une vision sacrée de ça et pas profane. Je me dis qu'il y a autre chose. L'autre chose, c'est probablement la manière dont les hommes, donc je reviens à l'humanité, dont les hommes façonnent les paysages, façonnent leur vie, façonnent leur histoire, dont les hommes se reproduisent, dont les hommes sont dans l'histoire, et que la vie d'un homme, de toute façon, c'est pas que sa propre vie, c'est au moins la génération d'avant et celle d'après. Au minimum, c'est trois vies. Sinon sept, comme on dit pour les chats, mais trois, c'est sûr. Donc il y a cette espèce de dimension qu'il faut, je crois, arriver à travailler. C'est dans ce sens-là où j'ai un amour immodéré de comme disait Pasolini d'ailleurs, de la réalité.
Et de l'humanité, même dans sa part la plus monstrueuse, parce que des monstres, il y en a beaucoup dans Gloria Mundi, oui. Des usuriers, toutes sortes de comportements induits par la société dans laquelle nous vivons. Mais justement, vous les filmez comme des comportements induits, et ce ne sont pas des salauds que vous filmez, ce sont des monstres. On repense là encore à Marius et Jeannette et au personnage qui était joué par Daroussin, à qui toute la cour reprochait d'avoir une fois voté Front National. Mais vous n'êtes pas dans une façon méprisante de filmer ces personnages-là, même quand ils font des choses monstrueuses.
Non, je crois qu'il a tout le travail consisté à essayer de montrer que c'était la société qui produisait des individus de ce type-là qu'il fallait condamner, et pas ces gens-là. Eux-mêmes, on leur a tous d'ailleurs laissé parfois une petite porte ouverte, petite fenêtre, parfois c'est qu'un sourire, hein, je veux dire, un petit clin d'œil pour certains, mais qui montre que quelques il y a un endroit où ils ont de l'humanité aussi, quoi, voilà. Ils ont une lumière aussi, quand même, voilà. Qui sait. Donc, qui pourrait être rallumé, voilà. Je crois que, par contre, je pense que c'est une des difficultés du cinéma. Je crois que de filmer les gens réellement, mauvais. Je veux dire, mauvais à 100%. Moi, je crois que c'est, au fond, je crois que c'est infilmable, en fait. Je crois que c'est une question théorique, quasiment. C'est-à-dire, un homme, le pire des hommes, en fait, si on fait un gros plan sur lui, il va quand même transporter quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité. Donc, la seule solution, c'est de refuser de le filmer. C'est-à-dire, voilà, pour prendre des exemples, moi, j'aurais jamais filmé Hitler, quoi. Ou des monstres de ce type-là.
Sur Marseille, le peuple rugit. Il y a le feu sur Marseille, et son poing se durcit. Il y a le feu, et oui, il y a le feu, mais qui c'est qui l'a mis? Il y a le feu, beaucoup, un peu, maya ou m'en fouti, maya ou m'en fouti. À Marseille, Notre-Dame est moisie. Ça pue à Marseille, dans le port tout croupi. Ça pue, et oui, ça pue, ça fouette, ça chling, ça chie. Ça pue beaucoup, beaucoup, ça pue beaucoup. Et moi je pue aussi, et moi je pue aussi.
Il y a le feu sur Marseille. Merci Robert Guédiguian. On se quitte sur la version revisitée par Jacques Menichetti du fameux Il pleut sur Marseille de Marius et Jeannette. C'était dans À l'attaque en 2000, un des 20 films qu'on peut retrouver en version restaurée et avec de nombreux suppléments dans le coffret DVD intégral édité par votre fidèle distributeur Diafana. Et puis pour voir le 21e Gloria Mundi, ce sera en salle à partir de mercredi prochain. On salue et on embrasse de l'autre côté de la vitre votre tout aussi fidèle attachée de presse Marie-Christine Damien. Et pour en savoir plus sur votre œuvre, on ne saurait trop recommander le livre de Christophe Kantchev, Guédiguian, aux éditions de l'Atelier. Quant aux conversations avec Robert Guédiguian d'Isabelle Danel, c'est au carnet de l'info. Beau coffret DVD encore, celui qui rassemble 9 films de l'immense cinéaste égyptien Youssef Chahine, de Ciel d'enfer à Alexandrie Pourquoi, en passant par Gare Centrale, qui révéla Omar Sharif en 1958, le tout accompagné d'un livre illustré. Youssef Chahine, La complainte égyptienne 1954-1979, c'est chez Tamaza, sur grand écran depuis mercredi, Cap à l'Est, avec la réédition du très culte et très noir L'incinérateur de cadavres, du tchécoslovaque Juraj Hertz, qui fait un tabac en salle en ce moment, et puis réédition aussi de 4 films de la période tout aussi tchécoslovaque de Miloš Forman, L'Audition, L'As de pique, Les amours d'une blonde et Au feu les pompiers, à voir avant ou après avoir réécouté notre plan large consacré à Forman. C'était en avril dernier à vos podcasts. Et enfin, à l'Est, toujours un festival activement soutenu par France Culture, un week-end à l'Est consacré pour sa 4e édition cette année à Belgrade, avec 8 séances de films serbes de 1980 à nos jours, dont 2 documentaires de la grande Mila Turaljic et une rencontre animée par la directrice de France Culture Sandrine Trainer le dimanche 1er décembre à 19h au Théâtre de la Ville Espace Cardin à Paris, rencontre avec Oleg Sentsov, le cinéaste ukrainien dont nous avons beaucoup parlé ici, récemment libéré des geôles russes. Vous aviez, Robert Guédiguian, largement contribué avec d'autres cinéastes à la campagne pour sa libération, un week-end à l'Est. C'est du 29 novembre au 1er décembre à Paris. Il est temps à présent, vous qui l'aimez beaucoup, Robert Guédiguian, de s'aventurer un peu plus à l'ouest, en terre brechtienne.
Einst glaubte ich, als ich noch unschuldig war, das war nicht ein Sklav so wie du. Vielleicht kommt auch zu mir einmal einer. Dann muss ich wissen, was ich tue. Und wenn er Geld hat, und wenn er nett ist, und sein Kragen ist auch werktagsreich. Und wenn er weiß, was sich bei einer Dame schickt, sage ich nicht nein. Dabei hat man seinen Kopf oben und man bleibt ganz allgemein. Sicher scheint der Mond die ganze Nacht, sicher wird das Bodenhuber festgemacht. Aber weiter kann nicht sein. Tja, da kann man sich doch nicht nur hinlegen.
Je ne dirais pas non à un homme qui a de l'argent, qui est charmant, qui a le col blanc du lundi au samedi. C'est Polly, la fille du chef des mendiants de Londres, qui chante ça dans l'opéra de Katsu de Georg Wilhelm Pabst. Pabst a conquis ses lauriers dans la période du cinéma muet allemand. C'était le découvreur avec Loulou et la rue sans joie de Louis Brooks et de Greta Garbo, excusez du peu. Mais Pabst a vite vu sa réputation ternie non seulement par ses pérégrinations, pas toujours heureuses, il faut le dire, entre l'Angleterre, la France et les États-Unis, mais surtout par sa compromission avec le cinéma nazi au début des années 40 et malgré ses fictions farouchement anti-nazis pour le coup des années 50. Inégal donc, à rien oublier aujourd'hui, Pabst connaît un retour en grâce ces temps-ci avec deux rétrospectives à la Cinémathèque française pour deux jours encore et en salle et sous peu en DVD de 12 films en version restaurée qui illustrent cette trajectoire sinueuse, foisonnante, parfois contradictoire qui reflète néanmoins les accidents de son siècle. Ce qui fait sans doute son prix aujourd'hui, Mathieu Macheret.
Oui, c'est vrai que Pape s'est laissé un peu flotter, voguer comme ça au gré des circonstances et que ça fait tout le caractère de sa filmographie. Filmographie qu'on connaît aujourd'hui encore mal, hein, en dehors de quelques films restés dans les mémoires, sans doute moins pour le réalisateur d'ailleurs que pour d'autres raisons, comme la présence de l'icône Louis Brooks dans Loulou, bien sûr, ou les chansons de Kurt Weill et Bertolt Brecht dans l'opéra de Katsu. Le cinéaste Pape reste associé à une, voilà, cette réputation d'œuvre inégale qui aurait démarré sur les chapeaux de roue dans le muet, puis perdant petit à petit un peu plus de son prestige à chaque fois, décennie après l'apparition du parlant, au gré de cette carrière incertaine et de certains choix, en effet, un peu discutables. Son nom est surtout frappé d'indignité, évidemment, il a collaboré au cinéma nazi en tournant des films en Allemagne sous le Troisième Reich, ce qui a évidemment entaché sa réputation. Ses rétrospectives permettent en tout cas de redécouvrir cette œuvre, elle révèle à l'endroit de Pabst un artiste plus complet, plus complexe que ce qu'on pouvait croire, sans doute un grand, mais surtout pas de ceux qui s'imposent par des signes de reconnaissance évidents, hein, ce qui le rend parfois difficile à saisir ou à résumer. Pabst a été en effet pour la majeure partie de sa carrière un cinéaste de commande, il faut bien le dire, qui passait allègrement d'un sujet ou d'un genre à l'autre et s'adaptait à chaque fois à leurs exigences particulières sans que son génie ne puisse se prévaloir d'une image de marque, d'une signature ou de thématique qu'on pourrait lui associer. Mais dans la première partie de sa carrière, Pabst a surtout été le peintre privilégié de la République de Weimar, hein, qui était voilà, une période sur la corde raide, caractérisée par sa fuite en avant dans des plaisirs sans lendemain, son ralliement à une modernité aveugle et effrénée, et surtout la violence des rapports sociaux qui en découlaient. Donc après des débuts sous influence expressionniste, Pabst s'est vite tourné vers un autre mouvement artistique, celui de la nouvelle objectivité, des peintres comme Otto Dix, Georges Gross ou Max Beckmann, qui s'est caractérisé par un retour au réalisme figuratif, mais un réalisme cru, volontiers satirique ou grotesque, surtout quand il s'agissait d'épingler une classe bourgeoise bouffie de bassesse et de dépravation. Et dans la deuxième moitié des années 20, Pabst, auquel on peut sans doute reconnaître un flair imparable pour choisir les acteurs, fait venir coup sur coup en Allemagne Greta Garbo et Louis Brooks, deux comédiennes qui étaient alors méconnues et dont il a révélé l'extraordinaire ciné-génie. Dans La rue sans joie, le cinéaste dépeint la misère noire d'un quartier de Vienne où la prostitution joue un rôle de régulation sociale, donnant un visage à l'exploitation acharnée des uns par les autres qui sévit dans les périodes de crise économique. Et Loulou, en 1929, qui est suivi la même année par Le journal d'une fille perdue, autre très grand film, donc ces deux films atteignent des sommets dans leur portrait d'une prostitution subversive, d'une condition comme ça qui est un ascenseur permettant de gravir ou de dévaler en un clin d'œil les échelons de la société, comme l'envers tantôt sordide, tantôt riant de son insatiable appétit de plaisir. Mais c'est dans les années 30, avec l'arrivée du parlant, que la filmographie de Pabst va prendre un tour décisif.
Camarades, on est là tout mineur ensemble. Et c'est parce qu'on est tout mineur ensemble que tu m'as remonté du fond. Et c'est toujours parce qu'on est tout mineur ensemble que le camarade Casper a fait sauter les barreaux de la grille à 1315. Et c'est aussi parce que derrière notre frontière, à nous, il n'y a que deux ennemis, le gaz et la guerre.
Bravo.
Je vous le dis, il ne faut jamais oublier ça. On est tous mineurs ensemble. Merci, camarades. On ne vous dit pas adieu, mais au revoir.
Et ça, bravo.
Au revoir. Au revoir.
C'est le passage final de La tragédie de la mine, un film qui était inspiré de la catastrophe de Courrières, survenue en Lorraine en 1906, où des mineurs allemands s'étaient spontanément portés au secours de leurs confrères français, victimes d'une explosion souterraine. Le film spectaculaire, sans personnage principal mais collectif, témoigne de l'internationalisme qui va caractériser jusqu'à la guerre le cinéma de Pabst, amené à franchir les frontières, à brasser les langues, à prôner une amitié entre les peuples, ou plutôt une solidarité interclasse. Alors le sentiment angoissé d'une catastrophe imminente, celui de la guerre qui vient, l'entraîne dans les années 30 dans le registre de cette prévention pacifiste avec Quatre de l'infanterie, sans doute l'un des films de guerre les plus ahurissants sur cette première guerre mondiale, qui est filmé ici dans la glaise d'un noir et blanc tellurique. Et après la seconde guerre mondiale, Pabst n'aura de cesse de racheter ses compromissions avec le Troisième Reich en participant à un effort de dénazification et en revenant sur cette période maudite qu'il dépeindra sous un jour critique avec des films comme C'est arrivé le 20 juillet ou La fin d'Hitler. Un repentir qui ne fera pas pour autant oublier ce qui fit un jour la force de son cinéma, son inépuisable vitalité plastique, capable de refléter les fièvres et les grandes commotions des époques troublées.
Merci Mathieu Macheret. La rétrospective Georg Wilhelm Pabst, c'est jusqu'au 25 novembre, encore deux jours à la Cinémathèque française. La rétrospective en 12 films restaurés et sans doute encore en salle ici et là, mais vous pourrez aussi vous les procurer en coffret DVD accompagné du livre de Pierre Eisenreich, Correspondance imaginaire. C'est à partir de mardi chez Tamasa. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Delphine Baudet et Élise Leu. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, plan large sur Richard Linklater. Nous visiterons avec lui son exposition au Centre Pompidou à l'occasion de la rétrospective qui lui est consacrée à partir de lundi. Et puis Marco Souzal nous parlera de l'excellent livre du critique Patrice Rollet, Descente au Limbe. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.